her film er en film om en fødselsdag.
Et un film sur un anniversaire.
Og ikke en film om incest.
Et pas un film sur l'inceste.
Den drivende hovedhistorie i den her film.
Force motrice dans ce film.
Er nu skal vi have vores kaffe.
Maintenant on prend le café, dessert. On prend le dessert.
Nu skal vi i seng.
On va
alle de ritualer, der er forbundet med en
fødselsdag.
Og så snakker det lidt om incest ved siden.
À côté de ça, il parle un peu de l'inceste.
Det er sådan, den er skrevet.
Je l'ai écrit comme ça.
Altså, det er jo klart,
bien
at
sûr.
Den film, vi ser,
que le film qu'on voit,
er noget andet.
C'est autre chose.
Det er klart, at hver eneste c'est bevægelse, clair, vi ser, handler om incest pludselig.
Parle
ser,
tout d'un coup de l'inceste.
Og handler om et tabu, der bliver
tabu
eksploderet i hovedet på os.
Qui explose devant nos yeux.
Men som skrivende menneske,
en tant que écrivain,
er det livet,
c'est la vie
og fødselsdagen, som skubbede mig fremad.
Qui m'a poussé en avant au départ.
For mig er festen, som mine
festen,
andre film, en lille sprække.
C'est une toute petite fente.
Ind til et liv, der forhåbentlig er større.
Vers une vie qui est, je l'espère, plus grande que le film lui-même.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'était en juin 1998, au Festival de Cannes. Jury et critique, estomaqué, recevait un direct à l'estomac avec un petit film d'auteur signé d'un jeune réalisateur danois, jusque-là inconnu du public français. Tourné avec peu de moyens, caméra à l'épaule, en son direct, sans décor fabriqué, Festen, puisqu'il s'agit de Festen, respectait les critères d'une charte cinématographique, le Dogme 95, élaboré par Thomas Vinterberg, son auteur, avec son ami Lars von Trier, en réaction aux superproductions hollywoodiennes. Ce retour radical à la vérité nue du cinéma s'alliait au sujet glaçant du film, une histoire d'abus sexuels au sein d'une grande famille réunie à l'occasion de l'anniversaire du patriarche. Dialogue au vitriol, décapage ironique du vernis bourgeois et de la morale puritaine, derrière lesquels alcoolisme, violence, racisme, mépris de classe et viol se perpétuent grâce au silence de chacun. Festen reçut un prix du jury bien mérité. Et si, depuis, le dogme a fait long feu, tous ceux qui ont vu ce film ne risquent pas de l'avoir oublié. Cyril Test a eu l'an dernier la formidable idée de monter ce Festen sur une scène de théâtre. L'usage de la vidéo, les improvisations, ces images fabriquées ici et maintenant, tout comme la radicalité du propos, tout ici faisait écho à son propre travail théâtral avec le collectif M x M. En 2015, au Montfort, à Paris, nous avions pu voir Nobody, une plongée ironique et terrifiante dans le nouveau monde du travail. Réunions incessantes et absurdes, surveillance de tous par tous, désintégration de la sphère du privé, humiliation publique des maillons faibles. Chaque spectateur pouvait y retrouver, à peine surligné, une part de sa propre expérience. L'originalité du théâtre de Cyril Test repose sur la notion de « vision augmentée ». Devant nous, la scène se décompose, comme dans la vie vraie, en plusieurs lieux où se déroulent des actions. L'œil enregistre ainsi la totalité du récit, les images vidéo, tournées et mixées en direct, projetées sur un écran, mettent l'accent sur le hors-champ. Ce dispositif intelligent s'accorde formidablement à l'action de Festen, qui se déroule le temps d'une belle soirée d'été dans une magnifique demeure où la famille vient fêter le patriarche abuseur et va devoir regarder en face ce qu'elle a toujours pris grand soin d'ignorer. Bonsoir Cyril Test.
Bonsoir.
1998, Festen, depuis combien de temps ce film vous hante-t-il avec la vision d'en faire un spectacle?
Je dirais exactement 7 années. 7 ans, ouais. Ça fait 7 ans que je pense à monter ce projet. Mais disons qu'il y a 7 ans, c'était même avant Nobody. Mais il y a 7 ans, j'étais pas prêt. Je pense qu'il faut savoir aussi s'écouter. Et se dire que peut-être on a un désir, mais que peut-être on n'est pas encore suffisamment mûr, préparé aussi, pour pouvoir le rencontrer. Donc j'ai un petit peu mis ça de côté. Et je m'attendais pas à découvrir autre chose qui était la performance filmique, puisque je suis parti sur un projet de laboratoire juste après, autour de la thématique du repas et de la famille. Et ça a été mon premier carnet d'études.
Mais cette thématique du repas, Dieu sait si elle est présente dans le cinéma. On sait bien que les drames familiaux se nouent aussi souvent autour d'une table, à l'occasion d'anniversaires, de fêtes. On sait l'importance de Thanksgiving dans le cinéma américain. Vous, depuis toujours d'ailleurs, cette envie de théâtre, elle est indissociable de ce besoin de cinéma.
Oui, et paradoxalement, je dirais que c'est l'addition de ces deux arts en crée un troisième qui s'appelle la peinture. Je viens de là au départ, je suis très sensible par rapport à la peinture. Et faire se rencontrer le théâtre et le cinéma, c'est aussi créer une nouvelle toile, un nouveau support pour pouvoir écrire. Il y a une chose aussi qui me touche particulièrement, c'est de faire se rencontrer deux arts qui racontent des récits dans des temporalités différentes. L'un, c'est du spectacle vivant, c'est le théâtre. L'autre, ça reste vivant, mais il scelle le temps, le cinéma. Et je me suis dit, mais comment, d'un seul coup, ces deux temporalités peuvent se rencontrer, communiquer, et peut-être même s'hybrider? C'était ça l'idée au départ.
Alors, vous nous disiez il y a quelques secondes, Cyril Tesse, que vous ne vous sentiez pas prêt il y a 7 ans, quand Festen est entré un peu dans votre envie de monter ce spectacle. On sait que vous montez des écritures contemporaines, mais on le comprend bien quand on a vu les spectacles précédents, et notamment Nobody, qui alliait déjà le cinéma mixé en direct, tourné en direct, avec le théâtre. Et ce spectacle-ci, Festen, on voit la maturation de cet art spécifique que vous avez trouvé, que vous avez mis en scène. Il y a effectivement peut-être encore plus d'harmonie. C'est vrai que Nobody, qui était un texte de Falk Richter qui nous heurtait de toute façon, peut-être que nos regards n'étaient peut-être pas encore assez habitués. Parfois, on se laissait distraire par l'image, puis on regardait le plateau, on ne savait plus très bien où on était, alors que c'était un spectacle tout à fait formidable. Mais là, Festen, il y a une harmonie. Alors, je ne vais pas dire une harmonie paisible, mais il y a une harmonie des moyens. Et on le sent. Alors, on ouvre le spectacle. C'est un tableau d'Hammershøi, hein, le peintre danois, c'est dans les gris, dans les bleus, on voit le feu de bois, on sent l'odeur d'ailleurs, puisque vous avez voulu allier un inventeur de parfums à votre spectacle. Et puis, ça se déroule, mais jamais ce qui se passe sur le plateau de théâtre ne gêne la vision du film qui est à côté, qui est une sorte, alors je ne sais pas, moi j'allais dire un hors-champ, mais vous vous dites souvent que c'est le théâtre qui est le hors-champ du cinéma, alors je ne sais pas très bien où situe le hors-champ.
Je trouve ça très beau hein, d'inverser, pourquoi pas.
Vous voyez, moi je sentais très, comme très beau, ça, parce qu'on voit ce qui se passe derrière au
tout
fond.
Tout à fait, non mais c'est très juste, mais peut-être que c'est très bien de le nommer comme ça. Le hors-champ est quelque chose qui évolue en permanence durant le spectacle, et que l'image vidéo peut prendre par moment en charge le hors-champ. Le théâtre, avec le repas, reprend le centre, et vont petit à petit se mélanger. Il y a quand même un travail. Oui, la performance filmique, elle est née il y a 7 ans, justement. C'était au départ autour de la thématique de la famille et du repas. C'est un objet, c'est un dispositif qu'on développe toute l'année avec mon équipe. On part souvent en résidence pour étudier, réfléchir, se nourrir, comprendre comment cet objet n'est pas un objet mort, ce dispositif, mais un objet qui ne gagne qu'à être, je dirais, organique et donc vivant et donc évolué, quoi. Peut-être ça, c'est la raison pour laquelle aussi, entre Nobody et Festen, même si on parle d'un docu-fiction sur Nobody, que Festen, c'est le film d'un film, forcément on peut pas aborder l'image de la même manière. Pour autant, j'ai la sensation que cet objet, en vieillissant, nous permet de ralentir son battement de cœur. Et ça peut être intéressant pour nous, parce que ça veut dire d'un seul coup que on peut reconvoquer une temporalité presque d'un cinéma qui a été plus ancien. Je parle du cinéma de Tarkovsky, de Bellatar ou de Bergman, qui ont été pour moi des grands cinéastes et qui encore aujourd'hui, en tout cas je me sens dans une filiation. Mais il y a ce désir qu'on a de reprendre de plus en plus de temps parce qu'on la connaît mieux. On apprend à la maîtriser. Et pour le coup, on se précise, j'ai la sensation, et c'est un objet qui va donc évoluer, je pense, au cours des prochaines créations aussi.
Alors, Festen, repas d'anniversaire, que ce soit au cinéma ou au théâtre, et bien sûr, c'est le père qui est fêté ce jour-là. Il a 60 ans.
Quand je vous regarde tous, je revois très clairement les années passées et tout ce qui nous est arrivé depuis. Avoir 60 ans, vous savez, ça n'a rien d'extraordinaire en soi. Moi, j'ai l'impression que c'était hier que nous avons conclu les négociations pour prendre possession de ce lieu exceptionnel. Pourtant, c'est pendant l'été 91 que notre petite famille a gravi les marches de ce perron pour la première fois. Mon adorable épouse, Else. Hélène. Michael. Et les jumeaux. Les jumeaux. Prêts à conquérir cette belle demeure, nous étions pleins d'espoir. Assez parlé. Je m'arrête là. J'espère que nous allons passer un très bon moment tous ensemble. Qu'on nous serve à dîner !
Formidable Hervé Blanc qui interprète le père incestueux dont la vie va exploser le soir de ce 60e anniversaire. Alors évidemment, un repas pour les spectateurs français. On pense tout de suite à la règle du jeu, d'autant qu'il y a cette double pièce qui se mène en cuisine et sur le plateau dans la grande salle à manger. Il y a bien sûr la règle du jeu, l'importance des serviteurs, des domestiques qui sont là, du cuisinier. Il y a aussi Hamlet, mais ça on y pense moins, mais vous, vous nous le faites toucher du doigt.
Oui.
Hamlet traverse l'écriture de Festen.
Totalement. Et je ferai un clin d'œil, puisque je parle de Bergman, à Fanny et Alexandre aussi, dans la question du repas.
Avec les enfants cachés sous la table.
Ben, bien sûr, voilà. Qu'est-ce qui pousse à un moment donné un héros comme Christian à venir dire ce qui l'a détruit ou qui l'empêche en tous les cas de devenir quelqu'un d'autre. Je pense que Christian est habité par un fantôme, le fantôme de sa sœur. Et il vient à la table pour peut-être aussi faire en sorte que sa sœur puisse se libérer. Autant que Hamlet va venir à la table pour faire que son père puisse aussi se libérer. On a énormément de similitudes entre les deux. Ça se passe au Danemark, ce sont des princes danois les deux. Hein. Quelque part, on a Christian qui est un jeune héritier d'une famille aristocratique. On a Hamlet aussi. Hamlet ne comprend pas pourquoi on peut se marier 2 mois après l'enterrement d'un père et Christian ne comprend pas comment on peut fêter un anniversaire après l'enterrement d'une sœur. Surtout quand on sait que les deux rois, que ce soit Claudius ou Helge, le père, au fond en sont la cause. Donc il y a cette chose et puis il y a cette grande phrase quand même qui pour moi définit vraiment l'œuvre de Shakespeare qui définit mon travail par rapport en écho avec celle de Winterberg. C'est le théâtre et le piège où je prends la conscience du roi. On est quand même dans deux écritures dont on est dans des combats de récits, des combats de fiction. Il suffit pas de dire une vérité, il faut encore qu'elle soit entendue. Et comment on peut la faire, en tout cas la faire résonner? Dans les deux cas, les deux héros posent cette question-là. Et ça se règle au théâtre.
Alors Cyril Tess, dans le générique de l'émission, on entendait la voix de Thomas Winterberg qui disait, et c'est très intéressant, il disait « Mais en fait, moi j'ai construit mon film comme la construction d'un repas d'anniversaire. Le temps de l'arrivée, on boit un verre, on passe à table et puis tout se déroule. » Et en fait, c'est vraiment ça parce que l'inceste est là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les faux-semblants, les hypocrisies, les non-dits et puis là, cette violence incroyable, justement parce que on ne parle pas, on ne montre rien, on est bien élevé. Il y a la violence envers les employés, il y a la violence conjugale, il y a le racisme. On écoute.
Ah. Hey, Charlie Brown, t'as dû complètement te gourer d'adresse, la putain de merde.
I don't understand, I'm sorry. Do you speak English, sir?
Yes, I speak English. It's private party. This private party. No guest, no guest, you see?
Yeah, but the thing is, I'm on the guest list. Yeah, thank you very much. I'm invited.
Est-ce que je peux? Hey, 2 secondes, mon vieux. Juste 2 secondes. Listen, here we don't need any music, no trumpets, no boom, boom, boom. You have to go home. I give you $50.
What's the money for?
You have to go home. No music.
Okay. I'm not here to play any kind of music, I'm invited, so...
Hey, te mêle pas de ça, ok?
Oh my God, you are Helen's brother, right?
Hey mec, je sais pas comment tu connais ma sœur et je préfère pas le savoir, ok?
Ok, I'm sorry, ok, excuse me, man.
Oh. I'm so happy you came, I miss you so much!
You look very good.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais?
Mais putain, mais de quoi tu parles?
Oh yeah, I don't know, he was just trying to throw me out. You know?
Such an asshole.
Eh oh, qu'est-ce que tu fais là-haut?
Bon, écoute, t'es gentil, Michael, t'es pas dans ton bar, alors tu nous fous la paix, pigé?
Putain, mais tu peux quand même pas ramener un macaque à l'anniversaire de ton père.
Mais ça va pas, tu traites pas mon mec de macaque, de nègre!
Calme-toi!
T'es un nazi!
Voilà, c'est l'arrivée de l'amoureux de la fille de la maison, Hélène, et il est noir, et le frère d'Hélène, Michael, très énervé, veut le jeter dehors. Il y a un contraste, et on le voit très très bien sur la scène du théâtre de l'Odéon, Cyril Teste, entre cette perfection absolue de l'extérieur, la beauté du cadre, la dignité apparente de tous les personnages, et puis cette espèce de délitement avec l'alcool au fur et à mesure, où tout le monde se laisse aller à ses pulsions intimes, et elles ne sont vraiment pas belles. Dans le film Festen, on le voyait aussi beaucoup. J'imagine que pour montrer ça sur une scène de théâtre, c'est pas si simple, c'est moins simple sûrement qu'au cinéma.
Alors c'est possible, après c'est vrai que j'ai besoin systématiquement d'interroger la question de l'esthétique, quoi. C'est-à-dire que notre monde est très esthétique. Et pour autant, il est rempli, je dirais, de parts obscures, de choses qui ne sont pas forcément belles. Et pourtant, ça constitue l'humanité. Dans un travail comme celui-là, la première des choses que je voulais montrer, c'est la perfection, c'est l'élégance. Quand on parle aujourd'hui, vous savez, j'aimais bien quand, je crois que c'est Vitesse qui parle de Marivaux en disant, Marivaux, c'est Sade avec des gants blancs. Aujourd'hui, on est, je crois, dans un cycle marivaudien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une, l'élégance est présente, hein, mais il y a quelque chose de très sadique qui est en train de se passer aujourd'hui. Très, très dur, je trouve, dans cette pièce. Ça se produit à plein de, vous l'avez dit, et c'est très important de le nommer. Non, l'inceste n'est, pour ma part, en tous les cas, et je pourrais peut-être fâcher certaines personnes, mais non, l'inceste n'est pas le sujet. C'est un thème parmi les autres du sujet, mais le sujet est beaucoup plus grand. Même si l'inceste est quelque chose d'inouï, de très très grand. Je ne remets pas ça en cause. Mais c'est englobé dans une réflexion qui est aussi la famille et plus largement d'une société. On a bien vraiment mesuré cette question-là pour ne pas en être ébloui par le thème. Voilà, parce que si on en fait un sujet, on peut être très vite ébloui. Et je rejoins là-dessus le réalisateur. Oui, c'est des vrais challenges aussi pour nous, parce que c'est vrai que le théâtre, c'est un lieu aussi qui permet, de, comme je vous dis tout à l'heure, de peindre. Mais quand on introduit la dimension de l'image, alors on peut, comme ça aussi, injecter une autre esthétique possible.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Non, ce qui s'avérait beaucoup plus dangereux pour nous, c'était quand papa prenait son bain.
Oh.
S'il vous plaît. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Donc, chaque fois qu'il allait prendre un bain, il nous emmenait d'abord, Linda et moi, dans son bureau. Curieusement, il avait quelque chose d'urgent à régler, qui ne pouvait pas attendre. Il fermait la porte à clé, il fermait les persiennes et il allumait une lumière pour faire joli. Il enlevait sa chemise, il enlevait son pantalon, nous on devait en faire autant. Il nous allongeait sur la banquette qu'on a foutue à la poubelle depuis et il nous violait. Il abusait de nous. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Il y a quelque temps, à la mort de Linda, je me suis rendu compte que Helg était un homme très propre vu le nombre de bains qu'il prenait. Je me suis dit que ça serait bien que j'en fasse part à ma famille. Alors, ça se passait en été, et au printemps, et en hiver, et à l'automne, et le matin, et le soir. Et j'ai pensé, il faut qu'il sache ça sur mon père. Helg est un homme propre. Et nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer Helg à l'occasion de son 60e anniversaire. Alors, il y a des gens qui sont vraiment vénards, qui ont la chance de vivre une longue vie et de voir leurs enfants grandir et leurs petits-enfants avec Michael. Mais enfin, voilà, nous ne sommes pas réunis ici pour m'écouter parler toute la nuit. Nous sommes venus célébrer les 60 ans de Helg. Alors fêtons-les tous ensemble. Donc, papa, merci pour toutes ces belles années et bon anniversaire.
On n'a plus de vin, est-ce qu'on peut remplir nos verres ?
Cyril Test, on vient d'entendre la voix de Christian, donc dans Festen, c'est Mathias Labelle qui était Jean, le héros de Nobody. Et ce qui est terrifiant, à la limite, et c'est assez formidable, c'est pas tant cet inceste qui est raconté, qui est lui-même glaçant, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire, c'est le silence, il y a même quelqu'un qui n'a pas vraiment écouté, qui applaudit. Et puis tout reprend. Et en fait, on se rend compte que dans cette famille, cette belle famille riche et bien élevée, ce n'est pas le fait lui-même qui choque, c'est qu'on puisse en parler devant tout le monde. Et vite, passons à autre chose. Et ça en dit effectivement énormément. Alors, on se souvient que Festen, c'est 98. En fait, le récit qui est fait de notre société, c'est un récit terriblement actuel. En 98, Winterberg racontait ce qui se passe aujourd'hui.
Totalement. Bah, ça, c'est aussi, je pense, la marque d'un grand artiste. C'est quelqu'un qui est visionnaire. C'est quelqu'un qui déjà pressent les vibrations, je dirais comme un tsunami, vous savez, c'est-à-dire, il était déjà au moment où il y avait le millimètre de la plaque tectonique qui bougeait avant que le tsunami nous arrive dessus. C'est un artiste très contemporain qui amène son œuvre. Elle a 20 ans, elle n'a que 20 ans, elle est jeune encore. C'est une œuvre qui est jeune et qui aujourd'hui, eh ben, avec tout ce qui nous arrive à tous les niveaux, oui, est débordant d'actualité, quoi. Mais ça, c'était pas, je l'avais pas vu comme ça. En fait, ce qui est très beau, c'est qu'on le constate qu'après. Mais oui, continuons de manger. Continuons d'effacer des traces possibles qui pourraient inscrire l'histoire. Mais on le voit encore aujourd'hui, on l'a vu dans tous les jours, on assiste à ça dans l'actualité aussi. Nous avons une grande difficulté à faire entrer l'histoire, quoi, à tous les niveaux. Je parle beaucoup, on parlait du hors-champ tout à l'heure. Le hors-champ est un lieu qui permet le deuil, qui permet l'observation, qui permet aussi de se positionner, de légitimer aussi un acte par rapport à un autre. On n'a pas véritablement, depuis ces dernières années, donner la possibilité de prendre ce temps-là pour recevoir l'histoire. Et du coup, l'histoire a du mal à s'inscrire aujourd'hui. Et donc, elle se répète, et pas forcément au bon endroit.
Alors, il y a, vous le disiez tout à l'heure, cette réminiscence de Hamlet qui court. C'est vrai que Christian vient pour tenter de libérer lui-même et le fantôme de sa sœur Linda qui s'est suicidée quelque temps auparavant. Mais en fait, c'est le fantôme qui va libérer Christian puisque c'est la découverte d'une lettre de sa sœur qui va faire que tout le monde enfin va comprendre que Christian disait la vérité, qu'il faut l'entendre. C'est la voix de la morte qui fait exploser la réalité.
C'est très beau, hein, ce que vous dites, parce que c'est très juste. J'ai vu un film qui m'a... Vous savez, c'est très important de se nourrir pendant une création, parce qu'il y a des clés et des réponses qui vous sont données. Je pense à Kiyoshi Kurosawa, qui est un artiste aussi que j'aime beaucoup, dans Vers l'autre rive. La grande question est, sommes-nous hantés par des fantômes et des entités et par un passé? Et dans ce cas, on a du mal à se libérer. Et ce qui est très beau dans ce film-là, en tout cas tel que moi je l'ai interprété, c'est peut-être il serait temps de lâcher la main aussi de ceux qui doivent partir aussi. Et c'est très juste que vous dites qu'au fond, la sœur dit à un moment donné, ça ne s'arrêtera jamais. Et elle comprend que son frère ira jusqu'au bout. Donc la seule solution, c'est que la lettre soit lue pour qu'enfin la vérité soit entendue. Mais ce qui est très beau également, et là je le constate avec vous, là, pendant que je vous parle, c'est que Christian ne détient qu'une part de la vérité. Sa sœur détient l'autre côté. Et que ça fonctionne en plein et en creux. Et qu'une fois les deux agencés, on peut, en ce cas, entendre leur vérité. Et ça, c'est très beau parce que, au fond, quand je vous écoute, je me dis, mais ils ont été dissociés, ils ont été séparés. Et à la fin, ils se retrouvent. Et c'est parce qu'ils se retrouvent que peut-être la vérité peut être entendue. Je vous le dis là parce que je suis en train de comprendre pourquoi. Vous savez, des fois, on crée des images dont on n'a pas forcément la réponse. Parfois, on écrit de manière très intuitive. La scène qui se passe sous la table, par exemple, avec les deux êtres, c'est très intuitif. Et je me rends compte que, en effet, sa sœur vient l'aider. D'une manière ou d'une autre, elle vient l'aider. Ouais.
Alors oui, Christian a l'aide de sa sœur, Cyril Test, mais il a surtout une aide matérielle alors très forte. Alors à l'inverse de la règle du jeu, il y a un moment dans Festen où la domesticité prend le pouvoir. En fait, c'est le rôle du cœur antique. Il y a un moment où Christian vacille, il va s'en aller, il en peut plus. Après tout, il s'excuse auprès de son père. Les mots ont dépassé sa pensée. Il est fatigué, il veut s'en aller. Et ce sont, en fait, tous les employés de la maison, les gens de la cuisine, les gens qui font les chambres, qui disent, mais non, c'est pas possible. Christian peut pas lâcher. Il les enferme pour que le huis clos soit vraiment là.
C'est extraordinaire parce qu'on assiste à la révélation d'un héros. Je pense beaucoup aussi, assez marrant, à la guerre de Troie. C'est-à-dire, d'un seul coup, en plus dans cette cuisine, vous savez, qui bouge à l'intérieur comme ce cheval de Troie, où d'un seul coup, c'est de l'intérieur qu'on va pouvoir assiéger la citadelle. Que peut-être j'en parlais avec les acteurs, ce cuisinier serait ce Achille, et peut-être ce Christian, ce Ulysse. Il y a aussi Batocaï, Pierre, Timètre, qui incarne justement un autre héros qui est pour moi un passeur.
Il est tellement extérieur à cette culture, en plus.
Bien sûr. Et donc, il vient aussi, il parle des esprits, il construit aussi, un peu à l'image d'Horatio qui dit à Hamlet, tu as vu qu'il y a un fantôme qui rôde autour de toi et qu'il va falloir le résoudre. Il y a, d'un seul coup, aussi des gens qui portent. Un héros, je crois, se révèle plus qu'il ne se fabrique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Christian est un héros qui existe par le regard des autres. Et parce qu'il incarne, à un moment donné, je crois, une authenticité forte, on a envie de l'aider, on a envie de le porter pour qu'il, ensuite, lui, puisse continuer à porter les autres. Vous savez, c'est un peu la fameuse grande phrase de, c'était Merlin avec Arthur, quand il lui dit, mais il va falloir que tu sois humble, tu as une épée, maintenant, et tu deviens roi. Il dit, oui, mais moi, je suis pas un roi, j'ai pas envie d'être un roi, mais pourtant, tu dois l'être. Et c'est ça, l'humilité, c'est d'accepter de devenir un roi. Et je crois que dans ce Christian, il y a cette chose-là d'un peuple aussi qui se soulève pour soutenir ce nouveau roi qui, en plus, ne cherche pas à avoir à tout prix le royaume.
Alors, tout au long de ce dîner d'anniversaire et de cette longue nuit très alcoolisée, il y a des scènes incroyables. Et puis, tout d'un coup, le matin, les gens doivent se séparer. Il y a une sorte d'apaisement et il y a cette fin absolument incroyable, monologue du père qui a tout encaissé, qui est battu, défait, sa couronne jetée à terre. Et voilà ce qu'il dit.
Je sais parfaitement que quand tout à l'heure, ils feront leur valise pour rentrer chez eux, ce sera la dernière fois que je les verrai. Maintenant, je me rends compte de ce que j'ai fait à mes enfants. C'est impardonnable. Je sais très bien que vous tous, surtout mes enfants, vous allez me haïr jusqu'à la fin de votre vie. Mais je vais tout de même vous dire que vous serez toujours mes enfants, que je vous ai aimés et que je vous aimerai toute votre vie, quel que soit l'endroit où vous vous trouverez dans le monde. Et quoi que vous fassiez, à toi, Christian, je veux dire, tu t'es bien battu, mon garçon.
Cyril Tess, ce sont les mots exacts écrits par Thomas Vinterberg. On les retrouve dans le film, mais la situation n'est pas la même. Dans le film Festen, c'est une défaite marquée. Le père est jeté dehors de la salle à manger où tout le monde prend son petit déjeuner. Il est obligé de s'en aller. Il dit ça, mais au fond, plus personne ne l'écoute. Alors que chez vous, dans votre Festen, à la fois, on peut le prendre comme une malédiction jetée à ses enfants, c'est-à-dire, en fait, je vous aime, donc vous ne serez jamais débarrassé de moi. Mais il y a aussi comme un apaisement, comme une sorte de réconciliation. C'est d'ailleurs un mot que vous employez.
Oui, c'est important, c'est très important. Et je pense que même c'est l'un des sujets, pour moi, de la pièce. Christian est là aussi pour se réconcilier avec sa propre histoire. Je vous disais tout à l'heure, je pense à Paul Valéry, qui est une phrase qui me construit encore aujourd'hui, qui dit « trouver ». N'est rien, mais le plus dur, c'est de s'ajouter à ce que l'on trouve. Ce qui veut bien dire qu'il y a une addition avec soi. On doit s'ajouter à soi, avec des choses qui ne nous appartiennent pas, dont on n'a pas choisi, mais pourtant on doit se construire avec, pour pouvoir construire un autre monde. J'ai la sensation, si vous voulez, que je traduis la fin d'un monde, la fin du père. D'ailleurs, quand on dit « tuer le père », on m'a posé la question toujours « qu'est-ce que ça t'évoque ?» J'ai dit « tuer, c'est être le père, c'est devenir ». C'est pas le tuer forcément. Ce qui est important là pour moi, c'est si je parle qu'en mon nom, si je veux continuer de construire des nouveaux mondes, si on veut être des bâtisseurs, il va falloir aussi qu'on se réconcilie avec ce qui a été fait avant. Et on le voit même dans notre société aujourd'hui. Et attention, ça ne veut pas forcément dire le pardon en soi. La réconciliation, c'est quelque chose aussi, c'est d'accepter, même si une part de nous et une part qui nous a été donnée, on ne l'accepte pas ou on la trouve... abject, immonde, elle fait partie de nous, de notre histoire, et que en l'acceptant, en se réconciliant avec cette partie-là, il y a peut-être une chance en tous les cas de moins s'épuiser à se battre avec soi-même qu'avec le monde qui nous attend. Et c'est ça dont je parle. Quand on voit à la fin le père, vous avez un immense portrait de Christian, et on a ce petit homme, tout petit, face à lui. C'est quand même, il y a quelque chose de très très fort, c'est-à-dire que le père était omniscient au départ, immense, il prenait tout l'écran, mais à la fin, l'image s'inverse et on a une petite voix qui dit, bien sûr, vous ne pourrez jamais m'oublier parce que je ne vous oublierai pas. Mais en même temps, il y a quand même cette notion que ça fait partie de lui, Christian, mais pour autant, ça part, il sort, il s'en va. Et Christian peut construire quelque chose de nouveau, puisqu'on, je dirais pas la fin, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui se construit de toute façon autre.
En tout cas, c'est un spectacle absolument formidable et qui en plus nous donne envie de revoir le film de Vinterberg. C'est très intéressant de comparer les deux. Festen, enfin, sera en tournée jusqu'en juin 2019. Aucune excuse pour ne pas aller le voir. Le prochain spectacle se donnera à La Roche-sur-Yon les 9 et 10 janvier. Et puis ensuite, il passera par Nantes, Amiens, Pau, La Rochelle, Le Mans, Bayonne, enfin partout en France. Et les lieux et les dates sont bien sûr à retrouver sur notre site de l'Humain Vagabonde. Voilà, merci à vous Cyril
Tess. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'est fini pour l'Humain Vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.